Bonjour à tous et bienvenue sur le Sprint, le média sport auto fondé par des fans pour les fans. Pour cette nouvelle année 2023, nous sommes très heureux de pouvoir vous proposer un nouveau format sur le Sprint, le Media Day. Dans ce format, nous vous interviewerons les personnes qui font le sport auto. Et quoi de mieux pour ce deuxième épisode que d'interviewer Alexis, ingénieur performance chez Hart Grand Prix en Formula E. Dans ce podcast, vous apprendrez comment devenir ingénieur, quelles sont les responsabilités qu'ils ont, quel est l'avis d'Alexis sur la Formula E, et j'espère que cela vous encouragera vous aussi à rentrer dans le monde du sport auto. Très bonne écoute à tous, et à bientôt. Eh bien écoute, bonjour Alexis, merci beaucoup de me donner ce temps pour cet entretien. Donc dans cet entretien, on va essayer de revenir un peu sur ton parcours, sur ce que tu fais en ce moment et ce vers quoi tu te projettes. Alors si dans un premier temps, tu peux un peu nous parler de ton parcours, de qui tu es et ce que tu fais actuellement.
Alors, enchanté, Alexis Revy, donc 24 ans, je suis aujourd'hui ingénieur chez ART Grand Prix, ingénieur performance en Formula E. Alors mon parcours, c'est que des formules de promotion au final. J'ai commencé via des stages, tout simplement, en école d'ingénieur, chez ART directement. J'ai commencé en F3 en tant qu'ingénieur data, avant de monter ingénieur data en Formule 2, où j'ai fait un petit peu de performance, mais c'était resté quand même majoritairement un poste d'ingénieur data. Avant de changer d'écurie, je suis passé chez RSGP, donc qui est deuxième écurie française. Cette fois-ci en F4 en tant que race engineer, donc responsable d'une voiture, pour mon stage de fin d'études. Et je suis revenu chez ART pour mon premier vrai emploi en Formula E, donc en tant qu'ingénieur performance, où je suis donc aujourd'hui depuis plus de 6 mois.
Alors, est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est un ingénieur performance en Formula E?
Alors, un ingénieur performance en Formula E, et même de façon générale, très bêtement, comme son nom l'indique, c'est quelqu'un qui va essayer de faire en sorte qu'un aspect de la voiture, l'aspect dont il est responsable, rende le véhicule plus performant, hein, comme son nom l'indique. Donc, en Formula E, on a beaucoup de systèmes. Donc, la voiture, elle fonctionne grâce à un logiciel, un software. Donc on a des ingénieurs performance qui vont être par exemple basés sur le software en lui-même, faire en sorte que voilà, ça fonctionne mieux de ce point de vue-là. Il y a des ingénieurs performance pneus qui sont là pour exploiter les pneus. Et moi, je suis plutôt côté châssis, liaison au sol. Donc plutôt des réglages mécaniques sur la voiture, des pressions de pneus parce que ça joue dans les raideurs mécaniques. Mais voilà, plutôt tout ce qui est mécanique pour mon rôle à moi plus particulièrement.
D'accord, ok. Alors, tu nous disais que tu étais chez Hart Grand Prix en Formula E. Ouais. Explique-nous un peu plus parce que il me semble pas avoir vu le nom Hart Grand Prix parmi les écuries engagées. Alors, en fait, avec qui tu travailles exactement?
Alors, en fait, Nissan FE, donc qui eux sont une écurie de Formula E, pour le coup, sont une écurie, sont responsables d'une voiture, tout ça. Et en gros, ils ont délégué le développement à ART Grand Prix. Du coup, moi, je suis ingénieur performance dans l'équipe de développement uniquement. Je ne fais pas les courses.
D'accord, ok. C'est
important de le préciser. Et ensuite, c'est l'équipe Nissan qui s'occupe vraiment d'exploiter la voiture pendant les courses. Mais en gros, le développement de la voiture est délégué à ART Grand Prix. Et donc après, Nissan exploite cette voiture pendant les courses, comme le fait McLaren, puisque McLaren utilise... des voitures Nissan, enfin des powertrains Nissan. En FE, on développe le powertrain, le train arrière, mais pas tout ce qui est... pas la monocoque, pas le moteur avant, parce qu'on a un moteur avant qui sert que pour la régène, mais on a un moteur avant. Mm. Enfin, voilà. Donc, moi, j'interviens dans l'équipe de développement pour Nissan FE.
Ok, très bien. Et donc, du coup, bon, j'imagine que t'être engagé dans le sport auto, c'est avant tout par passion.
Ouais.
Donc t'étais passionné d'automobile de manière globale, de sport auto de manière globale, ou particulièrement d'une Formule en particulier?
Moi, ça a été, je pense, comme beaucoup de personnes, j'ai surtout suivi la Formule 1 petit le dimanche devant la télé, on va dire. J'ai eu la chance d'avoir un père qui fasse un petit peu de sport automobile, alors niveau amateur, mais au moins c'est du sport automobile pour... La pression, c'était du kart cross, donc c'est quelque chose de très loin de la F1 ou quoi, mais bon, voilà. Et du coup, ça m'a surtout donné envie de travailler pour ma passion, de me dire que j'ai envie d'aller au travail en étant content de ce que je fais, sans m'ennuyer. Et ce qui m'a orienté vers le sport automobile.
D'accord, ok. Et pourquoi la Formule E ? Est-ce que c'était parmi tes premiers choix, ou est-ce que tu avais envie plutôt de base d'aller vers quelque chose de motorisé par un moteur qui sent l'essence, qui fait beaucoup de bruit ?
Non, pas vraiment. Alors, moi, mon parcours aujourd'hui, je suis en croissance, on va dire, dans ce que j'ai envie d'atteindre ou dans ce que j'ai envie de faire, dans le sens où j'ai commencé en F3, data, je suis monté data en F2, j'ai fait ensuite race engineer en F4, donc un meilleur poste, on va dire, mais dans une catégorie inférieure. Et donc, pour moi, ce que je visais surtout, c'était de gravir les échelons des catégories et de travailler dans des catégories plus professionnelles. Dans le sens où la Formule I, on travaille avec un fabricant directement, on travaille avec Nissan. Donc c'est des programmes, on va dire, très sérieux, avec des moyens, beaucoup d'ingénieurs. C'est des voitures très très développées, les Formule I. Donc moi, je cherchais surtout quelque chose de plus haut niveau que ce que j'avais pu voir avant dans les catégories inférieures. Pour donner un ordre de grandeur, en F3, c'est un ingénieur par voiture avec un data support sur 3 voitures. En F4, on est sur quelque chose d'assez similaire. Alors, je veux dire, un ingénieur par voiture avec un data support pour 4 voitures même parfois. En F2, on monte à 2 ingés par voiture en full time. Et là, en Formula I, en course, on est environ à, on va dire, en présent sur la piste, parce qu'il y a aussi des gens qui travaillent depuis l'entreprise, mais en présent sur la piste, on est sur une petite dizaine d'ingénieurs par voiture. Et nous, en développement, on est au moins 20 sur la voiture pendant une session. C'est des voitures qui sont quand même beaucoup plus complexes à exploiter. Et d'un point de vue ingénieur, on va dire qu'on se spécialise chacun beaucoup plus dans un aspect. Là où, dans les catégories inférieures, dans les formules de promotion, on gère plus le projet dans la globalité.
D'accord, ok. Ok, très bien. Donc la Formule I, pour toi, tu le vois comme une sorte d'étape, une première étape pour peut-être aller plus loin ailleurs, ou pas nécessairement ?
Ouais, je pense que comme beaucoup de personnes, je me vois bien travailler en F1 un jour. Donc moi, effectivement, c'est mon objectif à plus ou moins moyen terme de réussir à monter en F1. Mais aujourd'hui, je suis très content de ce que je fais en FE. Je prends beaucoup d'expérience aussi, parce que je reste au début de ma carrière d'ingénieur. Donc c'est sûr que c'est une étape. Et c'est une étape dans laquelle il faut que je passe un peu de temps.
Et c'est un parcours qui est assez classique de faire ce que tu fais, c'est-à-dire aller d'abord dans des formules de promotion, que ce soit en stage ou peut-être même en CDI un peu, puis aller vers la Formule I ou d'autres formules qui ne sont peut-être pas aussi prestigieuses que la Formule 1, peut-être même un peu de GT ou des choses comme ça, avant de rejoindre le Graal, la Formule 1. Ou est-ce que c'est toi qui as pris ces décisions-là et qui a un parcours un petit peu particulier ?
Alors là, pour le coup, il y a un peu deux façons de voir les choses, dans le sens où le métier le plus souvent visé, c'est le race engineer, l'ingénieur course, donc qui est vraiment celui qui gère sa voiture, qui va faire des championnats avec sa voiture si c'est un ingénieur course en championnat. Enfin, c'est le métier un peu plus rêvé, je pense, quand les ingénieurs arrivent en sport automobile. Et j'y suis passé, j'ai fait Race Engineer F4, c'était vraiment génial je suis dans les courses, je fais un championnat, j'ai mon pilote sur l'année, on va chercher la performance ensemble, c'est vraiment quelque chose de génial. Mais j'ai accepté de m'en éloigner pour retourner vers la performance, pour devenir ingénieur performance, où là je ne suis plus le Race Engineer de la voiture, là on est sur des ingénieurs courses beaucoup plus expérimentés. Celui en développement, donc de chez ART avec qui je travaille, il a fait, je ne vais pas dire de bêtises, mais j'ai au moins 5 saisons de F2, je pense, quelque chose comme ça, avec la même chose en F3 avant. Enfin, c'est quelqu'un qui a vraiment beaucoup d'expérience. Donc moi, j'ai plutôt accepté de perdre un petit peu en responsabilité sur la globalité du projet, mais de monter en catégorie, là où il y a des gens qui préfèrent rester dans des catégories un peu plus basses, mais avoir plus de responsabilités, avoir leur propre voiture. Donc je pense que c'est deux approches différentes. Mais la mienne n'est pas forcément révolutionnaire ou quoi que ce soit. Il y a deux chemins en sport automobile, on va dire. Et j'ai choisi de monter plus vite en catégorie, mais à des postes inférieurs pour l'instant.
Ok, très bien. Et est-ce que tu pourrais un peu nous parler de ton travail au quotidien ? Si tu devais un peu résumer une journée type, un peu, à quoi ça ressemble?
Alors, ça dépend beaucoup de ce qui s'est passé avant, mais on va dire qu'on rentre d'un événement, par exemple. Alors, il y a plusieurs missions, mais moi, la principale mission, donc en tant qu'ingénieur performance châssis, déjà, donc, pendant l'événement, c'est d'être aux côtés du race engineer. Donc, je suis un de ses premiers interlocuteurs. Pardon. Pas son premier, il y a des performance engineers qui sont plus importants que moi. Il y a une hiérarchie de performance engineers. On est 4-5 principalement à travailler sur la voiture aux côtés du race engineer. Donc moi, je suis là pour essayer de, pendant que ça roule, essayer de l'aiguiller sur, pourquoi pas, des choix de setup, des modifications à faire sur la voiture, faire des premières analyses, parce que nous, on est en développement, donc on ne cherche pas forcément, à faire la pole absolument sur le circuit sur lequel on est, on cherche plutôt à comprendre la voiture. C'est la première année là, qu'on travaille sur la Gen 3, donc sur la nouvelle Formula I. Donc moi, pendant que ça roule, je suis là pour comprendre les données pendant que ça roule et transmettre les informations importantes au race engineer qui, lui, gère le roulage de la voiture et n'a pas le temps d'aller regarder si au virage 5 du tour 3, la balance de la voiture a été bien ou pas.
Okay.
Donc moi, je fais ce travail de tri de données, on va dire, côté châssis, pour se dire, ok, qu'est-ce qu'on peut faire côté châssis ou quoi pour essayer d'améliorer tout ça. Après, on va dire, quand on rentre à l'atelier, le soir, on fait des analyses rapides ou quoi pour préparer le lendemain. Ce qui est assez similaire au travail que je fais quand je rentre d'un événement où là, voilà, il y a des rapports à produire sur qu'est-ce qu'on a fait, qu'est-ce qu'on a appris ou qu'est-ce qu'on n'a pas appris. Voilà, ça, c'est le travail principal, hein. Là, tout le temps à la recherche de la performance, même s'il y a quelque chose qui nous enlève de la performance, en soi, on est content de le savoir. On sait qu'on n'a pas forcément envie d'aller dans cette direction-là pour telle ou telle raison.
Okay.
Et ensuite, moi, j'ai une autre mission qui est que, en gros, dans nos logiciels de données, on reçoit plein de données de la voiture, forcément, on a plein de capteurs, machin, et on peut recalculer plein de choses à partir de ces capteurs. Et moi, je suis responsable de la librairie des calculs. Donc en gros, tous ceux qui créent, c'est pas moi qui crée tous les calculs, mais les gens, j'en crée certains, d'autres personnes en créent d'autres, et je suis responsable de récupérer tous ces calculs, faire en sorte que ce soit écrit proprement, parce que c'est du code en gros, que ce soit codé assez proprement, y repartager avec tout le monde, et que tout le monde ait une librairie de calculs assez propre. Et je suis aussi responsable du développement de mes outils d'analyse. Donc pour analyser les données, comme je te disais en piste, il y a de la lecture brute de données, on va dire, on a des logiciels pour lire les données, ça nous affiche les courbes, c'est bien, mais on a surtout plein d'outils derrière qu'on développe pour analyser plus rapidement les données, pour nous avertir s'il y a des problèmes ou quoi. Et ces outils, je développe moi-même mes propres outils.
Et ça c'est vous particulièrement qui développez vos outils, ou c'est de manière, enfin, ça se fait couramment dans le sport auto?
Non, c'est tout le monde dans le sport auto développe ses propres outils. C'est okay. Tout le monde. C'est comme ça.
Okay. Et tes journées, elles sont, tu dirais qu'elles sont assez chargées, c'est-à-dire tu fais des gros horaires ou pas trop?
Alors ça dépend plutôt du calendrier, on va dire. Typiquement, moi je suis arrivé en juillet dernier en Formula I, ça fait à peine 7 mois. Et quand je suis arrivé, c'était pile le début du roulage de la Gen 3, et donc on avait beaucoup de journées à faire pour préparer la saison qui a commencé au 15 janvier. Mmh. Donc là, c'était vraiment chargé la fin d'année 2022. Et là, en début d'année, donc cette fois-ci, on va être sur une année un peu plus standard, on va dire. Donc là, on a un peu de temps, on est un peu moins chargé en ce début d'année.
Ok, d'accord.
Donc, moins chargé, ça veut dire au moins 9h-18h, une journée type au bureau. Sachant que là, en ce moment, on est au bureau, sans compter qu'on va pas tarder à repartir ou rouler ou passer la voiture sur des bornes de mesure ou quoi. Donc,
Mais justement, c'était...
C'est-à-dire la journée type, c'est ça.
Justement, c'était ma prochaine question. Ça t'arrive de te déplacer Donc là, tu parlais d'aller sur la piste, d'aller au banc. Tu m'as dit que t'allais pas directement sur les courses. Mais est-ce que ça peut t'arriver de le faire pour avoir certaines informations qui peuvent te manquer au bureau?
Non, alors justement, moi, je vais jamais sur les courses. Mais il y a 4 voitures de course. Et on a une voiture de développement propre à RT, on va dire, qui est chez RT. Et en fait, cette voiture, nous, on l'a fait rouler. Donc moi, je suis en piste quand la voiture de développement roule. Donc si tu veux, en 6 mois, en 2022, j'ai dû faire 8 ou 9 événements, tu vois. Donc... Enfin, 7 exactement. 7 semaines, je pense, de déplacement, quoi. Donc je suis souvent en piste, mais pas sur les courses, sur du développement.
D'accord. Donc, concrètement, tu as une voiture qui roule. C'est un peu l'opposé de la Formule 1 où... beaucoup comme beaucoup de travail qui se fait avec soufflerie, CFD, etc. Là t'as vraiment les moyens de pouvoir tester plein de trucs en réel, en situation réelle.
Ouais exactement. Okay. On a un nombre de jours limité, mais on a la voiture roule.
Ok, très bien. Et qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton travail, et qu'est-ce que tu aimes le moins, si tu devais un peu trouver un défaut à ton travail?
Alors, qu'est-ce que j'aime le plus? C'est pas si compliqué, c'est vraiment la recherche, on va dire, de la performance. Pas ultime, mais en tout cas la recherche de la performance, aller réussir à aller chercher les derniers centièmes. Même si aujourd'hui je l'ai plus, parce que je l'ai beaucoup moins, parce que je suis ingénieur performance et je parle moins aux pilotes. Quand j'étais à la race engineer, c'est quelque chose que vraiment j'aimais beaucoup, c'est l'aspect relation avec le pilote aussi. C'est quelque chose où vraiment il faut arriver à construire une relation avec son pilote, pour le mettre en confiance, tout ça, c'est hyper important et ça permet vraiment de construire une saison, quoi. On sent vraiment qu'on impacte directement les performances en faisant de l'humain et pas uniquement en faisant du technique. Donc ça, c'était quelque chose de très sympathique, en tout cas pour le poste de race engineer, pour le poste de performance, comme je dis avant, la recherche de la performance pure et dure, savoir réussir à lire des données, à améliorer une voiture et à se rendre compte que le travail qu'on fait, effectivement, il est payant sur la piste et on gagne des positions, ou en tout cas des centièmes, si on est sur le chrono. Un aspect un peu moins plaisant, forcément, je pense que c'est le temps disponible, dans le sens où quand c'est le rush complet, et encore en développement, vraiment, on n'est pas les plus à plaindre dans le sport automobile. Là, l'année 2023, pour nous, elle s'annonce plus ou moins tranquille. Mais une année de... Je reprends par exemple la F4. L'année de F4, c'est environ 25-26 déplacements à l'année.
Ah oui.
Faut s'accrocher, quoi. Si on aime le métier, c'est pas forcément un souci. Mais voilà, c'est un rythme, faut s'accrocher.
26 déplacements à l'année pour la F4?
Ouais, alors la F4, c'est un peu spécifique, en fait. Le truc, c'est que c'est pas limité en nombre de tests.
D'accord, ok.
Contrairement à la majorité, si ce n'est tous les autres championnats FIA. Et du coup, bah, le jeu des équipes, c'est d'aller rouler le plus souvent possible, entre guillemets, une semaine sur deux, hein, pas loin. Donc ouais, la F4, faut aimer le sport auto pour y aller, mais au moins c'est un apprentissage rapide et condensé, on va dire, parce que t'es tout le temps en piste. Hein.
Ok, je comprends.
La F4 italienne et allemande, la F4 France, c'est quelque chose de très différent.
Ok. Toi, t'étais F4
Italie. J'étais F4 Italie. Okay.
Donc t'allais souvent en Italie, j'imagine?
Ah ouais, j'allais souvent en Italie.
Ok. Ouais. Okay. Et est-ce qu'on regarde du coup le sport? Enfin, déjà, est-ce que tu as le temps de regarder le sport, c'est-à-dire même la FE, la F1? Est-ce que tu as encore ce temps pour le regarder? Et si oui, est-ce que tu regardes différemment?
Alors, typiquement, F4, le temps, non, je l'avais pas. Donc, j'arrivais même plus à regarder les Grands Prix de F1, je pense, parce que bah, on est trop de travail, on va dire. Quoi. Enfin, on aimait bien ce qu'on faisait, il n'y avait pas de souci, mais bon, on n'avait pas le temps. Maintenant, en FE, là, c'est un peu plus tranquille quand même. Donc, ouais, j'ai le temps de regarder. Est-ce que je regarde différemment? Pas vraiment. Mais par contre, on comprend quand même beaucoup plus ce qui se passe que d'un fan lambda, je pense. Donc, au moins, on a une vision plus globale de qu'est-ce qui est en train de se passer, pourquoi lui, il a du mal plus que lui ou quoi. Donc, je pense qu'on comprend plus de choses. Mais est-ce qu'on regarde différemment? Non, au final, en tout cas, personnellement, je reste quelqu'un qui est fan de F1, qui a ses pilotes préférés, ses écuries préférées ou quoi. Et je reste un fan de sport automobile quand je suis le dimanche après-midi devant la télé.
Et par curiosité, t'es fan de quelle équipe, de quel pilote?
Alors, équipe, j'ai pas forcément de fan, mais pilote, je suis particulièrement Fernando Alonso.
D'accord, ok. D'accord, très bien. Et t'en penses quoi de son départ chez Aston? Est-ce que t'es plutôt content? Plutôt rassuré?
Honnêtement, Fernando, ça fait quelques années, lui, il roule, on va pas se mentir, il roule pour l'argent. Hein, donc là, il prend un joli chèque en allant chez Aston Martin. Est-ce qu'il va être plus rapide que dans une Alpine? J'en suis pas sûr. Il dit qu'il roule que pour la victoire aujourd'hui. Bon. Enfin, ouais, Fernando, moi, j'en suis fan parce que quand j'ai commencé à regarder la F1, j'étais petit, c'était les années où il gagnait, donc 2004, 5, 6. Donc bon, voilà, fan de celui qui gagne un peu au début, sûrement. Mmh. Aujourd'hui, je suis un peu triste qu'il ne se batte pas aux avant-postes, même si je suis convaincu qu'il a une très bonne pointe de vitesse. Alors après, Fernando, il est ce qu'il est quant au point de vue politique au sein d'une écurie. Hein. Je pense que ce n'est pas un pilote simple à avoir dans une écurie. Mais en tout cas, moi, ce qui m'a toujours plu chez lui, c'est sa pointe de vitesse pure, on va dire, son talent brut.
Qu'est-ce que vous appelez... parce que c'est vrai que c'est un terme qu'on entend souvent chez les ingénieurs, pointe de vitesse. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, un pilote qui a une pointe de vitesse? Est-ce que c'est un pilote qui est capable d'être rapide avec un setup qui, où il a une bonne vitesse de pointe et du coup, il s'en sort avec une voiture qui n'a pas forcément beaucoup d'appui, ou ça ne veut pas du tout dire ça?
Non, c'est tout simplement le talent de base pilote, quoi, on va dire. C'est comme tout, il y a des sportifs qui dépassent un peu les autres. Bah, la pointe de vitesse, ça veut dire que si tu mets... qu'est-ce qu'on peut prendre comme exemple? Tu mets Lewis Hamilton contre Kevin Magnussen dans la même voiture, je pense que dans 99% des cas, Lewis, il va aller plus vite que Kevin, quoi, tu vois. Donc c'est cette faculté qu'il a de mieux exploiter la voiture dans des conditions plus variées, voilà. Le jour où le setup ça va aller un peu moins peut-être, et ben Lewis il va être capable d'aller quand même chercher un minimum de performance là où Magnussen aura peut-être plus de mal. Je prends les deux comme ça au pif parce que c'est un peu un quart au-dessus, un peu un quart plus bas dans la hiérarchie, mais ça marche dans toutes les catégories. C'est un pilote qui a, selon les catégories, une capacité d'adaptation surtout, je dirais, qui est plus importante que les autres et qui sait dans toutes les conditions être à peu près performant.
Ok, très bien. On va revenir un peu sur la Formule I, si tu me le permets. Tu en parlais, il y a eu l'introduction de ces Gen 3 cette année, ont un look assez différent. Alors personnellement, je suis pas extrêmement fan du look, je vais être très honnête. Je préférais le look des anciennes, pour être honnête. Quand je revois les premières, même les secondes Gen, je les trouvais vraiment, vraiment belles et assez différentes. Les troisièmes, j'ai plus de mal, mais toi, quel est ton avis dessus? J'ai eu l'occasion de voir un peu une première course, j'ai trouvé quand même assez rapide, il y avait de la bataille quand même. Toi, de l'intérieur, t'en penses quoi? Est-ce que c'est vraiment un gros step par rapport au Gen 2? Et ouais, ton avis un peu là-dessus?
Alors moi, j'ai pas travaillé en Gen 2, hein, donc j'ai qu'un avis extérieur sur la Gen 2, mais je connais quand même un minimum la FE pour avoir mon avis. D'un point de vue ingénierie, c'est un énorme step, rien à dire. D'un point de vue purement subjectif, est-ce que c'est beau ou quoi? Bon, bah, c'est subjectif. Moi, personnellement, elle me plaise beaucoup. J'ai eu très peur quand j'ai vu les premières photos. La présentation officielle, sans livrer ni rien, c'était vraiment pas joli. Mais au final, quand on a vu les voitures rouler pour la première fois, c'était vraiment chouette. Honnêtement, au bord de piste, elle est impressionnante à voir passer. Et en course, ouais, non, c'est une voiture qui est super puissante, hein. Ça, il n'y a pas de souci à se faire. Et d'un point de vue ingénierie, parce que bon, bah, c'est ce qui nous plaît, c'est une voiture beaucoup plus complexe que la Gen 2. Notamment parce qu'on a un moteur à l'avant pour la régénération. Ce qui n'était pas le cas avant. Mmh. Et du coup, non, d'un point de vue ingénierie, c'est beaucoup plus complexe et on va dire beaucoup plus intéressant pour nous. Il y a beaucoup plus de problèmes, beaucoup plus de performances à aller chercher à droite, à gauche. Enfin, c'est une voiture qui a plus de potentiel de travail, on va dire.
Ok. Et en termes de... Tu connais un peu les chiffres de performance au global, hein, je te demande pas de ton équipe à toi, mais au global, c'est en termes de vitesse de pointe, de puissance en chevaux, de 0 à 100, est-ce que tu les connais?
Ouais, alors j'ai les grands chiffres en tête. Je sais que alors la vitesse de pointe de la Gen 2, c'était 220. Maintenant, on est à 260 environ. Enfin, okay. Alors, en théorie, mais on ne peut pas forcément y aller parce que les circuits sont plus ou moins courts. Le 0 à 100, ça a pas beaucoup parlé parce que, en fait, selon le grip et tout, pas forcément excellent et on n'a pas des si bons pneus que ça. En fait, c'est en gros, si tu veux, sur le papier, la Gen 3, elle est beaucoup plus rapide. Mais les pneus sont moins rapides, plus durables que les Michelin, parce qu'on est passé sur des rangs cette année. Donc, on est... pas forcément tant plus rapide que ça, malgré la puissance en plus, parce qu'on est passé de 200 kW à 300 kW en course.
Ah ouais.
Et 350 kW en qualif.
Ah oui, c'est ce que...
220 kW exactement en FE, je crois.
En chevaux, ça se convertit comment à peu près?
Alors avant, ça faisait environ 300 chevaux. Et aujourd'hui, on est sur 400 chevaux. Et en qualification, on est à 470 chevaux. Et... Donc, quand même sur quelque chose qui pousse pas mal.
Okay. Et j'ai entendu parler un peu de cette affaire des pneus. C'est si grave que ça, les pneus en cook ?
Bah encore une fois, j'ai pas travaillé en F1. Alors là, pour le coup, j'ai pas vraiment la comparaison directe entre Michelin et Hankook. Mais c'est des pneus qui n'ont pas beaucoup de grip, on va dire. Quoi. Donc, faut faire avec.
Ok, ok. Ok, donc ça fait partie de ton travail, c'est-à-dire tu as une situation donnée et tu peux pas y faire grand-chose et ton travail c'est d'optimiser au maximum cette performance-là en proposant des réglages, des choses comme ça.
Exactement, parce que pour le coup toutes les écuries sont dans le même cas, hein, on a tous les mêmes pneus, on n'a pas tous les mêmes moteurs, hein, nitre arrière, mais bon, on a les mêmes châssis, on a les mêmes batteries, mais... Exactement, on a ce problème-là, la voiture est dans cet état-là, et bah comment on peut réussir à la faire aller plus vite.
Ok. Et d'un point de vue pilotage, tu as eu quelques retours sur cette nouvelle génération. Qu'en disent les pilotes ?
Alors, c'est une génération qui est un peu plus pilotée par les systèmes, du coup, puisqu'on a un peu plus... on va dire qu'on a plus de possibilités que d'avoir la voiture qui se gère elle-même. Donc, on va dire ça comme ça, c'est grossier, mais... ça comme ça. En gros, on arrive à aider un peu le pilote. Aider un peu le pilote, tout simplement. Donc, c'est une voiture où il y a plus à comprendre, et surtout, on part d'un peu plus loin, dans le sens où c'est une nouvelle voiture, les équipes ont quand même très très peu de temps pour la développer. Hein. Ça a été très compliqué. On a beaucoup travaillé, on a eu des grosses semaines de tests, et on arrive un peu pas si préparé que ça, quoi, dans cette saison 2023. Donc je pense que pour les pilotes, c'est surtout qu'il y a beaucoup à comprendre. Maintenant, est-ce qu'elle est sensiblement plus dure à piloter ? Ça, je ne saurais pas dire.
Ok, ok. Et enfin, une petite dernière question sur la FE. Toi, ton avis sur la série au global, qui a reçu quand même pas mal de critiques, qu'est-ce que t'en penses maintenant que tu es à l'intérieur, que tu es tué à l'intérieur de la série ? Est-ce que tu penses que c'est une série qui est porteuse d'avenir ? Ou qui doit peut-être faire 2-3 changements pour vraiment devenir très intéressante.
Ouais, je pense que c'est impossible en tout cas pour l'instant pour une série comme la F1 de concurrencer la F1, qui est quand même le top du sport auto. En tout cas, c'est ce qui est, j'ai pas les chiffres en tête, mais j'imagine très largement la série la plus suivie à la télé ou quoi. Le problème de la FE, c'est qu'elle a été jugée très vite par ceux qui ne jurent que par le thermique. Maintenant, quand on regarde les courses, c'est sûr que l'accent est mis sur la sauvegarde d'énergie, sur du coup de la gestion. Donc au final, on n'est pas sur des courses où on a du sprint à 100% pendant 40 tours, ce qui fait que c'est tout le temps que de l'action. Il y a beaucoup de sauvegarde d'énergie, tout ça rend de la tactique. Donc pour ça, c'est sûr qu'il faut avoir plutôt un œil d'analyse, on va dire. Mais pour le coup, je trouve que c'est des voitures en qualif, typiquement, qui sont vraiment très impressionnantes à voir rouler, parce que c'est puissant, ça tourne dans des circuits quand même assez étroits. Il y a assez peu de grip, donc mine de rien, ça amène du spectacle. Maintenant, je pense que la série elle va quand même avoir du mal à concurrencer des gros championnats comme la F1 parce qu'il n'y a pas ce côté impressionnant en course. Alors même s'il y a beaucoup de gestion en F1 en course, je pense que la F1 est un peu plus impressionnante à voir en course.
Ouais, ok.
Et c'est ce que les gens regardent le plus souvent. Ils regardent la course plus que les qualifications ou les essais.
Ouais, ok. Ok, très bien. Pour conclure, j'ai deux petites questions pour toi. La première, est-ce que tu pourrais donner un ou deux conseils aux gens qui nous écoutent et qui ont envie de faire le métier que tu fais actuellement?
Ça peut être évident. Deux conseils.
Faites ingénieur. Non, mais je rigole, mais...
Faites ingénieur. Alors si, premier conseil. Faites des études d'ingénieur, c'est très bien. Non, c'est fou. Premier conseil, je dirais... apprenez l'anglais.
D'accord.
Parce que ça, c'est... C'est même pas une question en fait. On parle plus anglais que français, hein, tout le monde. Donc faut être 100% à l'aise en anglais. Faut, si, si vous devez l'apprendre, plus vous devez l'apprendre plus vite, on va dire, que ce que les cours vous proposent. Donc regardez des films, n'hésitez pas, partez à l'étranger si vous pouvez. En tout cas, dans la mesure du possible, il faut être le meilleur possible en anglais. Et en deuxième conseil, ouais, avant même d'arriver dans les équipes ou quoi, vous pouvez, mine de rien, avec Internet, avoir une assez bonne culture technique. Donc je pense que c'est une bonne chose à faire pour ceux qui se voient bien dans le métier dans le futur. C'est n'hésitez pas à essayer de, voilà, d'avoir une culture technique assez solide du sport automobile. Ce qui typiquement n'était pas forcément mon cas en arrivant. Et du coup, il y a des trucs, quand tu vois une voiture de compétition pour la première fois, il y a des pièces, tu ne sais pas ce que c'est, quoi, typiquement. Donc ça, c'est un première étape que certains pourraient avoir passé si ouais, voilà, ils lisent beaucoup d'articles techniques. Ah. Je pense que tu peux avoir un média, il y a plein de médias qui sortent des articles techniques après chaque course sur quelles améliorations vont apporter les écuries de F1, typiquement. Donc là, ça peut être assez intéressant, rien que pour savoir comment est construite une voiture de F1, parce que c'est pas forcément évident, mais typiquement sur une F1, le châssis il est connecté directement au moteur, qui est connecté directement à la boîte de vitesse, et les trains roulants ils sont fixés sur la boîte de vitesse. Donc la roue arrière elle est pas fixée sur le châssis, en fait, elle est fixée sur la boîte de vitesse. Ça, voilà, c'est une culture qui peut s'acquérir avant même de mettre le pied dans une équipe de sport auto.
Ok. Toi tu disais que ces choses là tu les connaissais pas. T'as eu du mal à rentrer en... Enfin, c'est peut-être un peu nécessaire comme question, mais tu juges que c'est difficile de rentrer dans le sport auto ou en vrai, si on y met un peu du sien, c'est pas si compliqué que ça?
C'est pas que je les connaissais pas, c'est que je connaissais pas tout et j'aurais... Je pense si j'avais vraiment voulu travailler beaucoup ma technique, j'aurais pu en apprendre plus sur l'architecture d'une voiture avant. Je suis pas arrivé en connaissant rien du tout au sport auto parce que je suis beaucoup la F1. Je lisais des articles techniques, il y avait pas de souci, hein. J'en lisais, je connaissais quand même pas mal de choses. Mais voilà, je suis pas arrivé en ayant passé les 4 mois d'avant à lire tous les articles techniques que j'ai pu trouver de ma vie sur Internet pour être sûr à 100% que je connaissais bien tout par cœur.
Ok.
Maintenant, est-ce que c'est dur de rentrer dans le sport auto? On va dire qu'il n'y a pas... En fait, au final, il n'y a pas énormément de place quand on regarde les écuries qui font de la monoplace, parce que c'est ce qu'elle peut regarder. On regarde aujourd'hui la monoplace. En France, on a Alpine. Alors, on dit en France, on a Alpine, mais en vérité, Alpine, c'est l'anciennement Lotus, donc c'est Ironstone en Angleterre. Donc, il n'y a pas une seule écurie de F1 basé en France. À Viry-Châtillon, il n'y a que les moteurs. Donc il y a Alpine Motorist, pour le coup, qui est Renault, du coup. Donc en F1, c'est très limité. En formule de promotion, on a ART, on a DAMS, un petit peu en dessous, donc, en dessous dans le sens où des formules de promotion un peu plus basses, on a Air Race. Donc ça fait, au final, quand on regarde, on se dit, ok, bon, y a 4 entreprises, ça fait pas grand-chose. Mais en fait, quand on regarde, il y a énormément de petites entreprises de rallye. Des entreprises qui font du rallye raid, qui font du GT ou quoi, et qui sont des super portes d'entrée pour même pour du niveau ingénieur. Faut pas du tout cracher sur du GT ou quoi. Il y a pas que la monoplace dans le sport auto, loin de là. Donc, je pense qu'on se focalise peut-être un petit peu trop sur les gros requins, on va dire, en tout cas les entreprises vraiment connues, parce que tout simplement on les voit passer à la télé, donc on les connaît, c'est plus simple, on connaît leur nom. Mais il y a beaucoup, beaucoup. Et je pense qu'on a de la chance en France, hein. On a vraiment beaucoup de petites écuries qui sont prêtes à accueillir des jeunes, à les former, voilà. Et il faut avoir ses premières expériences pour ensuite pouvoir arriver, dans la majeure partie du cas, dans les plus grosses écuries.
Ok, merci beaucoup. Et une dernière petite question, si tu avais un prono pour cette saison de Formule E, et je vais bien sûr te demander cette saison de Formule 1.
Alors, la saison de Formule 1, alors ça va, parce qu'on a déjà vu 3 courses. Porsche ont l'air très très fort. Maintenant, le powertrain en tout cas, avec on a Jack Dennis et Pascal Wehrlein qui sont déjà partis les deux un peu en tête de championnat, donc je pense que ça va jouer entre les deux. Allez, on va dire Jack Dennis pour la Formule AI et donc Andretti pour le... Andretti ou Porsche pour le championnat, ça je ne saurais pas trop les champions d'équipe, je ne saurais pas trop dire. Alors je vote pas pour mon écurie parce que c'est dommage. Mais je pense que on a des très bonnes chances. En tout cas, on a montré des très bonnes choses avec McLaren notamment, qui utilise le powertrain Nissan. Donc je crois bien en McLaren qu'en plus on a vraiment deux pilotes solides avec Hughes qui a un super rythme en qualif et René Rast qui est très intelligent en course. Donc je pense que l'écurie peut clairement aller chercher la deuxième place constructeur si elle continue sur les belles choses qu'elle a montrées à Diria le week-end dernier. Et en F1, au fond, on espère un retour de Ferrari avec Charles Leclerc.
Là, tu sais que tu me fais plaisir quand tu dis ça. Moi, grand fan de Ferrari, de l'ère Schumacher, j'ai connu les belles batailles avec ton pilote Fernando.
Eh oui. Ah ouais. Ça ferait plaisir de revoir Ferrari gagner un championnat quand même.
Ah bah tu m'étonnes.
Ah, ça ferait plaisir.
Avec Fred aux commandes, on le souhaite. Un Français qui ramène Ferrari, ça fait penser à l'ère Schumacher quand même. Mais écoute,
ça fait penser à Jean-Todd, exactement.
Ouais, tout à fait. Mais écoute, merci beaucoup pour cet entretien, c'était super intéressant. Et
Merci à toi.
Je te souhaite une très bonne continuation et à bientôt.
Ouais, à bientôt. Merci beaucoup.
J'espère que cette interview vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner au Sprint sur Twitter, sur Twitch, sur TikTok, à vous abonner à notre podcast surtout. Et à très bientôt.